Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Kevin.
Salut.
Comment ça va?
Bien. Encore un peu fatigué, je rentre juste de course, mais on est dans un beau cadre là.
Ouais bah écoute merci d'être venu jusqu'ici. On est on fait un petit peu de pub, on est à l'hôtel des 13 hommes à Annecy. C'est un hôtel qui est très connu de toute la ville, qui est très très agréable avec une très belle vue sur le lac et dans lequel il y a un restaurant. Puis là on profite du lundi dans lequel le chef jour auquel le chef ferme pour faire cette interview. Donc si vous êtes sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez les regarder, c'est magnifique. Je suis trop content d'être là, Kevin. Je te l'ai dit, t'es le premier cycliste que j'interview après 200 sportifs de haut niveau. Pourtant, j'ai dit des cyclistes, mais c'est pas vrai parce que j'ai eu beaucoup de vététistes. Tu vois, Loana Lecomte, Julien Absalon, beaucoup de descendeurs aussi, des gens qui font de l'enduro, mais beaucoup de triathlètes. Mais première fois que j'ai un finisher du tour devant moi, quoi. Donc, je suis un peu impressionné. écoute, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Je t'ai dit que j'ai envie de parler du rôle d'équipier. J'ai envie de parler de préparation mentale. J'ai envie de parler de la récupération, puisque effectivement, vous avez un programme de malade. Mais juste avant, je te l'ai dit, j'aime bien commencer par l'enfance. Et j'aime bien savoir, quel est ton premier souvenir de sport?
Ça date déjà un peu. Je pense que c'était quand j'étais vraiment petit. Après l'école, souvent j'ai pris mon vélo et j'ai roulé avec les copains un peu dans la rue devant la maison. C'est ça vraiment mon souvenir, ouais.
Ok. Ça a tout de suite été le vélo, du coup. Tout de suite le coup de foot du vélo.
Ouais, j'ai fait d'autres sports aussi. J'ai fait du basket. Un jour de foot, j'ai fait aussi. J'ai vu que c'est pas pour moi.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était pas mon ambiance, quoi. Je suis rentré et je me dis, voilà, l'entraîneur, il me crie que dessus et, c'était pas ma vision du sport de profiter du calme un peu.
Ok.
Du coup, voilà, ça, j'ai bâché très vite. Et après, j'ai vu dans le basket que j'avais pas vraiment de talent. Du coup, j'ai arrêté ça aussi. J'ai fait de l'athlétisme que j'ai plutôt bien aimé. Et après, voilà, après, je suis resté avec le vélo.
Ok. À quel âge tu mets ton premier dossard?
À 6 ans.
Ok.
Du coup, ouais, très tôt. C'était, ouais, des petits, je sais pas pourquoi, c'était vraiment ma passion. J'ai kiffé ça. Et quand j'ai entendu qu'il y a des clubs de vélo et des courses de vélo, j'ai dit direct, allez, on essaie ça.
Ok. Tu dirais que c'est le sport le plus populaire au Luxembourg ?
C'est un sport très populaire parce qu'il y avait les frères Schleck qui ont fini sur le podium du Tour. Du coup, pendant cette période-là, il y avait vraiment un gros hype autour du vélo, ouais.
Ok. Ouais, mais toi, t'as commencé le vélo avant que soit là, non ?
Ouais, avant, mais voilà, il y avait toujours 2-3 bons cyclistes au Luxembourg.
Ouais, il y a toujours eu un petit vivier de très bons coureurs et cyclistes. Gamin, il y avait des rouleurs qui te faisaient rêver, que t'avais envie d'aller chatoyer, tu regardais le Tour de France.
Ouais, c'est clair. J'ai regardé toutes les étapes du Tour après l'école. j'ai suivi ça de près. Et après, voilà, il y avait, comme j'ai dit, il y avait plusieurs Luxembourgeois qui étaient vraiment à très haut niveau, notamment les Schleck, où j'ai plus ou moins tout suivi. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie de devenir pro.
Ok. T'as réussi à les rencontrer ?
Ouais, maintenant, Frank Schleck, il est entraîneur national.
Ok.
À la Fédé. Du coup, je le connais très bien maintenant.
Ok, d'accord, ouais. Ok. Je savais pas qu'il était passé entraîneur national.
Ouais.
Ok. Il parle bien français aussi.
Ouais, il parle bien français aussi, ouais.
Bon, mais peut-être que je pourrais lui proposer quelque chose, ça m'intéresse. Ok, trop bien. Dès tout jeune, tu sais que t'as envie d'en faire ton métier.
Ouais, plutôt jeune. C'était vraiment mon truc, quoi. Je me suis dit, c'est ce métier-là que je vais faire. Après, voilà, tu vas encore à l'école, tu t'es toujours un peu, tu te laisses quand même une petite chance ouverte si ça marche pas. Mais dans ma tête, c'était très très clair que c'est ça ce que je voulais. Okay. C'est assez beau d'ailleurs d'avoir quelque chose dans la vie comme ça que tu veux autant pour un peu mettre tout sur un truc, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents ?
Mes parents, ils ont fait du tennis des tables. D'ailleurs, j'ai aussi essayé le tennis des tables, mais voilà, c'était okay. Pareil. Tous les sports de coordination, tout ça, c'était pas trop mon truc.
Ok. Mais ils étaient ok avec le fait que tu veuilles devenir cycliste pro et
ils voulaient surtout qu'on fasse du sport. Ma sœur aussi, qui a fait un peu carrière dans le basketball, qui était aussi pro en basket.
Okay.
Et du coup, c'était d'abord juste faire du sport. Ils s'en foutaient un peu ce qu'on fait. Et après, quand j'ai dit que je veux devenir pro, pour eux, c'était aussi important que je finisse l'école et que je me laisse une deuxième porte ouverte si ça marche pas.
D'accord. Ok. Ouais, mais du coup, ils étaient plutôt alignés avec ça quand même.
Ouais.
Ok.
Ouais. Et voilà, du coup, j'ai beaucoup de support et de soutien pour essayer de tout donner pour réussir, ouais.
Ok. Et comment est-ce que tu faisais un peu pour gérer les moments un petit peu moins fun du vélo plus jeune, parce que ça reste un sport quand même très dur, notamment l'hiver, tu vois, faut se motiver, faut y aller, il peut y avoir des chutes aussi. Toi, enfant, tu vois pas trop tous ces côtés un peu négatifs?
Non, je pense quand t'es jeune, t'es vraiment dans le kiff. Y a encore beaucoup de trucs qui sont beaucoup moins stricts. Tu fais pas attention à la récup, tu fais pas attention à la nutrition. C'est vraiment le plaisir, quoi, quand t'as 15 ans. T'es pas encore conscient du danger, parce que tu deviens plus tard et parfois où voilà, faut le travailler aussi. Du coup, voilà, jusqu'à, je dirais, 18 ans. C'est un pur kiff, ouais.
Ok, mais ça a l'air, en tout cas, quand je te vois. Toi, à quel moment t'as pris conscience du danger ?
Petit à petit, je pense, quand je suis passé pro et tu vois de plus en plus de chutes. Parfois aussi des chutes plus graves où tu te rends compte qu'il y a un peu de danger partout. Et je pense, plus tu vois des chutes, plus après tu es conscient que voilà, il y a un peu le danger partout.
Ok. Y en a une, toi, qui t'a marqué, qui fait que t'étais plus le même avant qu'après?
Non, j'ai pas encore de grosses chutes, mais voilà, après chaque chute, voilà, où t'es bien râpé, après, tu réfléchis plus, et voilà, faut retrouver la confiance, parce que après une chute, on passe quand même, au moins une semaine vraiment pas agréable.
Ouais. Tu dans la tête c'est dur de remonter ou
même surtout physiquement parce que t'es râpé, ça brûle partout, t'as du mal à dormir, tu travailles tout le temps la nuit, faut refaire les pansements, c'est assez chiant, ouais.
Ouais. Et à ce moment-là, tu comprends aussi pourquoi on t'a dit de te raser les jambes si t'avais oublié.
C'est ça.
Parce que ce jour-là, sinon, ça fait mal. J'ai des copains qui ne savaient, avec qui je dînais hier, qui savaient pas que les cyclistes se rasaient justement pour ça, quoi, en cas de chute.
Ouais.
Il y a un côté esthétique, mais aussi en cas de chute, c'est.
Ouais, c'est pour les infections, quoi. C'est beaucoup plus facile à nettoyer aussi qu'il y a pas de poils dans les plaies, ouais.
Ouais, ok. Ok, hyper, hyper intéressant tout ça. À quel moment tu réalises que ça devient un métier pour de vrai?
À 18 ans, je suis parti de Luxembourg pour aller à Chambéry. Il y a le centre de formation d'H2R, qui est une équipe World Tour. Ils ont une équipe pour les jeunes. Et à ce moment-là, j'ai intégré l'équipe. Et c'est là où tu apprends un peu le métier avec tout ce qui va avec et où t'as là vraiment un calendrier chargé. En fait, tu vis un peu comme un pro, juste que t'es pas encore pro.
Ok. Et tu fais des études à côté ou t'as pas
ouais,
le temps?
Là, on était obligé de faire des études. Du coup, moi, j'ai fait langue étrangère appliquée.
Ouais.
Et mais c'est très bien. Comme ça, t'as encore une vie un peu plus normale aussi, une vie sociale où tu vas à la fac, où tu rencontres des gens, où tu parles d'autres choses. Pour moi, c'était quelque chose d'important et plus je grandis, je vois que c'était important. Parce que je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ou des jeunes qui, à un moment donné, ils vont se dire « Bon, j'ai loupé quand même quelque chose dans ma vie. » Et c'est vraiment cette période-là de 19 ou de 18 à 21 ans, je pense.
Ok. Ah, où ça fait un peu le filtre naturel de ceux qui sont vraiment motivés et qui ont vraiment envie de faire ça, quoi.
Ouais.
Ok. T'en gardes des bons souvenirs de ces années?
Ouais, de très bons souvenirs, je pense. C'est... Ouais, comme j'ai dit, t'as l'impression d'être vraiment étudiant. Tu habites en coloc avec les autres cyclistes. L'hiver, tu sors ensemble. Voilà, tu fais plein d'activités. C'est vraiment encore un peu une vie normale avant de passer pro.
Ok. Et t'as des petites anecdotes de cette période-là, un peu drôle, je sais pas, avec des coureurs avec qui tu roules encore aujourd'hui?
Bah, il y en a beaucoup qui sont passés pro aussi. Benoît Cosnefroy ou Aurélien Paré-Peintre avec qui j'ai encore des très bons contacts. Et voilà, je pense que nous tous, on se souvient des hivers quand on a fait un peu la fête, quand on n'était pas les cyclistes, mais ce qui était... je suis vraiment content d'avoir vécu un peu ça aussi dans ma vie.
Ok. Tous les cyclistes passent par une école de formation, enfin, ou un centre de formation comme celui-ci?
Ouais, il y a la catégorie espoir qui est de 18 à 22 ans. Et c'est souvent des centres de formation, des équipes World Tour. Où tu apprends vraiment le métier, ouais.
Ok, d'accord, ça marche. Je connaissais pas ce système, mais effectivement. Et est-ce que c'est dur? Moi, j'ai une question à te poser parce que tu vois, quand je regardais un peu ton parcours, j'ai l'impression que justement avant d'y arriver, t'avais fait beaucoup de victoires déjà. J'ai vu que t'avais gagné pas mal de trucs au Luxembourg, que t'avais des super résultats. Là, tu reviens dans une équipe espoir où il y a de la compétition et vous travaillez en équipe différemment, quoi. J'imagine que tu perds un peu ton statut de leader aussi. Comment ça se vit, ça? Est-ce que c'est dur à appréhender ce changement de statut et ce changement de rythme?
C'est clair que c'est très différent. Quand t'es amateur, tu pars en course avec le but de faire un résultat.
Ouais.
Quand t'es chez les pros, tu fais un briefing et voilà, souvent on est à 7 de la même équipe au départ. Il y a un leader.
Okay.
Et du coup, les autres 6, ils sont là pour faire une tâche, pour faire une partie du métier, quoi. Du coup, il y a beaucoup de courses où tu vas pas au départ pour faire un résultat. Et ça, faut l'accepter. Que voilà, que peut-être ton boulot, c'est de rouler dans le vent de kilomètre zéro jusqu'à 150. Et ta course, elle s'arrête à 150 alors que la course est à 200 km. Et ça, c'est quelque chose que faut vraiment accepter, que peut-être, si t'es vraiment bien, t'as encore parfois des chances pour vraiment faire des résultats. Pour le reste, c'est un métier, ouais.
Ok. Tiens, vu qu'on parle de ça, j'avais envie qu'on parle un peu stratégie, rôle et tout. Tu me dis, dans une équipe de 7, il y a un leader, il y a 6 coéquipiers, ils ont chacun une tâche définie. Ça peut être quoi les tâches, par exemple?
Il y a plusieurs tâches. Il y a souvent un mec qui fait le boulot en premier. Ça veut dire que dès que l'étape elle part, c'est lui qui doit peut-être rouler dans le vent pour aller chercher l'échappée, par exemple, qui doit chercher les bidons, qui doit placer l'équipe dans le peloton. Du coup, il prend beaucoup de vent. Pour lui, c'est déjà impossible de faire un résultat parce qu'il
lâche. Il fait les bidons et en plus, il roule devant le peloton.
Ouais.
Ok.
Parfois, t'en as deux ou trois qui ont la même tâche, du coup.
Ouais.
Et du coup, pour eux, c'est déjà impossible de faire un résultat. Parfois, c'est même dur déjà de finir la course parce que tu lâches toute ton énergie. Quand les autres, ils sont encore bien dans la spi, ils sont tranquilles.
Ouais.
Et après, voilà, plus que tu vas dans la course, bah, ces trois mecs-là, ils ont fini leur boulot. Du coup, voilà, souvent la course, elle est finie. Et là, il y a d'autres qui prennent le relais. Et voilà, ils font le même boulot pour finalement avoir un leader pour le mettre dans les meilleures dispositions pour les dernières 20 kilomètres peut-être. Du coup, voilà, tu sais, quand t'as ce boulot-là, bah, c'est impossible de faire un résultat. Et c'est aussi pas attendu du tout de toi de faire un résultat.
Ouais.
C'est vraiment attendu du leader. Et du coup, c'est assez spécial, ouais.
Ok. Ouais, il y a un côté où je trouve il y a un côté beau de un peu de sacrifice pour l'équipe, quoi. Donc qui est pas facile. Mais je pensais, tu vois, je savais pas que c'était le même qui roulait, qui faisait les bidons, tu vois. Je pensais qu'il y avait un pour les bidons qui descendait à l'arrière du peloton, ouais, qui faisait les retours.
Bah parfois quand il y a un qui roule, l'autre va chercher ou voilà, il s'inverse, quoi. Mais souvent pour le début, ouais, t'as peut-être deux mecs désignés pour vraiment faire le boulot dès le début, ouais.
Ok. Toi, c'est dans quel rôle que tu te sens le mieux?
Le rôle que j'ai sur les grandes courses et au Dauphiné, au Tour de France, c'est de, en montagne, par exemple, de passer le premier col. Et après, quand c'est un groupe de 30-40 mecs, d'être là avec le leader pour le placer et l'accompagner le plus longtemps possible sur l'étape. Ça c'est vraiment un rôle que j'aime bien parce que t'as l'impression, tu te sens dans la course, quoi, parce que tu approches au final, tu sens le stress de la course et ça c'est quelque chose que j'aime bien, ouais.
Ouais. Puis il y a un côté, vu que t'es grand, tu vois, où tu peux faire il y a un côté un peu garde du corps aussi, je trouve, tu vois, protecteur en tout cas, tu vois.
Garde du corps du petit Gaudi, par exemple.
par exemple. Mais ok. Comment est-ce que vous discutez de la stratégie ensemble? Est-ce qu'elle est imposée par le directeur technique? Est-ce que vous la réfléchissez? Est-ce que vous la travaillez? Tu vois, comment elle évolue, cette stratégie, généralement, d'une course à une autre?
En gros, on a deux DS sur la course, directeurs sportifs, qui, eux, font vraiment le plan de la course, le plan tactique de la course. Et c'est eux qui définissent ça. Du coup, tous les matins, dans le bus, on a un briefing sur la télé où, voilà, les rôles sont définis. Après, nous, on peut aussi interagir et dire ce qu'on pense. Peut-être inverser les rôles. Si quelqu'un se sent vraiment bien, bah, il peut aller plus loin dans la course. Du coup, son boulot, il commence plus tard. Mais voilà, c'est vraiment les DS qui proposent un plan de bataille. Ouais.
Ok. Et c'est eux qui définissent du coup les rôles de chacun, qui est le leader, qui est le...
Ouais.
Quels sont ceux qui vont rouler au début, d'autres qui vont accompagner plus tard.
C'est ça, ouais.
Ok. Ça peut arriver qu'on te définisse un rôle qui te plaît pas ou que tu te dises, tiens, aujourd'hui, je le sentirais différemment.
Ouais, ça peut arriver.
Ou est-ce que les rôles sont très fixes au final dans l'année?
Ça dépend. En gros, on a vraiment... une grande approche pour le tour où on passe souvent avec la même équipe par Paris-Nice, Dauphiné, Tour, où tout le monde a plus ou moins les mêmes rôles, où chacun sait aussi ce qu'il a à faire, chacun sait pourquoi il est là. Et après, il y a d'autres courses où c'est beaucoup plus ouvert, quoi. Il y a vraiment deux types, deux types, ouais.
Ouais, sur les spéciales ou sur les...
Ouais. Et après, voilà, ça varie, sur les plus petites courses ou les Coupes de France, par exemple, je peux être leader aussi, où je peux vraiment jouer ma carte. Et après, par exemple, quand je vais au Tour, je sais exactement pourquoi je suis là.
Ouais, ok, ouais. C'est hyper intéressant, hyper intéressant. Et comment est-ce qu'eux, ils définissent qui est le leader? C'est en fonction des résultats, de vos performances, de votre expérience, des données physiques, tu vois. Si demain, tu te mets à avoir la meilleure PMA de l'équipe, tu vois, est-ce que ça fait changer, en fait, le statut?
Ouais, ça dépend aussi beaucoup du parcours.
Mmh.
T'as des rouleurs, bah ils sont leaders sur des étapes plates par exemple, alors qu'il y en a d'autres en montagne. Et sur les grandes courses, il y a vraiment les grands leaders comme par exemple David Gaudu ou Pinot ou Stefan Küng pour les classiques.
Mmh.
Ils ont fait déjà beaucoup de résultats là-dessus. Ils ont aussi un contrat de leader. C'est à eux aussi d'assumer ce rôle.
Ouais, ok. Ouais, généralement quand il y a un changement d'équipe, tu sais à quel rôle tu vas travailler quoi. Il y a pas de potentielle incertitude.
Non, surtout avec le programme avant tour, tu sais exactement ce que tu fais. Et après ça dépend à chaque fois aussi de ton physique quoi, de ton état de forme. Si t'es vraiment au top forme et tu vas sur une course moins important, là tu peux te dire attends, je me sens bien, je pense que je peux faire un résultat.
Ouais.
Et l'équipe elle va te faire confiance.
Ok. C'est un objectif pour tous les cyclistes de devenir le leader de leur équipe?
Je pense que c'est l'objectif, ouais. Mais c'est pas du tout réalisable pour tout le monde. Le niveau, il est tellement haut que, et même, c'est tellement spécifique. Moi, par exemple, je pourrais jamais être leader dans les montagnes des grimpeurs. C'est impossible, je suis trop grand, je suis trop lourd. Ça marcherait pas, ma VO2 max, elle est pas assez haute pour ça. Et du coup, tu dis
carrément c'est impossible.
Ouais.
Ok.
Même si je bosse vraiment beaucoup, je peux me rapprocher des meilleurs, mais jamais je peux faire n'importe ce que je veux. J'ai pas les dispositions pour gagner un Tour de France.
Mmh.
Et là, je peux faire ce que je veux. Et ça, faut l'accepter aussi.
Mmh.
C'est
vrai que c'est des physiques hyper particuliers quand on regarde Pogacar et Vingegaard, ils ont une morphologie quand même assez similaire et même s'ils ont des styles au final très différents quand même dans leur façon de pédaler, mais ils ont une morphologie.
Après, c'est aussi la VO2 max par exemple, tu peux l'augmenter jusqu'à un moment, mais à un moment ton corps il peut pas augmenter encore plus, alors qu'eux ils ont vraiment des valeurs de folie.
Ouais, ok. Donc tu disais toi tu sais que dans la montagne c'est pas forcément évident, mais sur du plat c'est quelque chose qui serait envisageable et que tu as pour objectif du coup.
Ouais, moi c'est vraiment dans les efforts de 2 à 5 minutes où j'ai vraiment des valeurs assez correctes, où je peux vraiment faire des résultats, où j'ai déjà fait aussi des résultats là-dessus. Et du coup voilà, c'est aussi quelque chose que j'aime bien d'essayer de faire un résultat sur ces courses-là.
Mais attends, quand tu dis que t'es une performance entre 2 et 5 minutes, j'ai pas compris. C'est que t'es capable du coup de faire la différence sur une échappée de cette taille-là? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que par exemple, si l'arrivée elle est dans une bosse de 2 à 5 minutes,
okay.
Où c'est presque purement lactique,
ouais.
J'ai une bonne tolérance lactique.
Ouais.
Et du coup, là, je peux faire un résultat. Alors que si l'arrivée elle est au haut d'un col d'une heure, mon seuil il est pas assez élevé. Et du coup voilà, chacun faut trouver son point fort,
ouais,
pour finalement essayer de faire la meilleure carrière possible.
Ok. Ouais, et d'essayer de gagner les carrières que tu peux gagner quoi.
Ouais.
Les courses que tu peux. Ok, hyper intéressant. Et du coup, comment est-ce que vous définissez le programme à l'année ensemble? Et est-ce que toi, Kevin, t'as le droit de dire justement à ton DS tiens, j'aimerais bien des courses avec une petite bosse à la fin, pas trop de montagne quand même parce que je suis un peu lourd. On va faire du plat cette année. Comment est-ce que ça se négocie du coup tout ça?
C'est l'équipe aussi qui te met normalement sur le calendrier où t'es le mieux quoi, avec tes capacités qui sont le mieux. Ça dépend aussi des rôles que t'as. Moi je pense un rôle où je sais vraiment bien, c'est être équipier sur un grand tour par exemple. Du coup, ils m'ont choisi cette année pour le tour. Mais c'est vraiment un calendrier qui est fixé par l'équipe, où eux, ils mettent leur stratégie en place. Et finalement, toi, t'as pas grand-chose à dire. Tu peux toujours, si t'as une course que tu veux vraiment faire, tu peux faire le vœu. Après, tu vas voir si c'est possible ou pas.
Oh, ok, d'accord. Ok. Vous modifiez plus du tout le calendrier dans l'année, quoi.
Il est fixé en décembre, où ils annoncent le programme au moins jusqu'au tour. Mais bien sûr qu'il peut changer. C'est un calendrier idéal. Après, si t'as pas la forme ou voilà, t'es pas là où ils t'attendent, bah tu fais pas la sélection pour l'équipe et voilà, tu fais pas les courses prévues.
Ouais.
C'est pour ça, c'est un calendrier idéal. Et après, c'est le sport, hein. C'est partout pareil. Faut faire les sélections pour les courses. Pour le tour, c'est une énorme sélection. On est 30 dans l'équipe. Il y a 8 mecs qui vont. Du coup, déjà ça, c'est une énorme sélection pour y aller. Et voilà, faut déjà faire les sélections.
Ah ouais, j'avais oublié que vous étiez aussi nombreux, ouais, 30 dans l'équipe.
Ouais, 30, ouais.
Ok. Comment tu gères, toi, pas forcément la compétition, tu vois, mais en tout cas la sélection que vous avez entre vous. Comment est-ce que ça se gère déjà? Est-ce que j'imagine qu'il y a un peu de pression, mais comment est-ce que tu fais pour toi te détacher de tout ça?
Je pense le plus important, c'est déjà se concentrer sur moi-même, sur soi-même. C'est ce que je fais. J'essaye d'aller chercher le maximum à l'entraînement qu'en course et de pas penser à tout ça, quoi. Quand on approche du tour, je pense le truc le moins bien que tu peux faire, c'est penser qu'au tour et la sélection. Faut prendre étape par étape. Tu te concentres sur ce que t'as à faire. Tu essaies de faire ce qu'ils te demandent le mieux possible. Et après, voilà. Après, soit t'es assez fort pour y aller, soit t'es pas assez fort. Mais pour moi, je pense à bouffe que du jus, de penser aux sélections, de si je vais, si je vais pas, et voilà, faut se concentrer d'abord sur ce que t'as à faire.
Ouais, ok. Et comment tu fais pour être plus concentré sur ce que t'as à faire?
Je me détache un peu. C'est quelque chose que j'aime bien quand je rentre des courses. J'aime bien me détacher de ce monde de vélo. Bien sûr que je me concentre sur tous les aspects de la performance et l'entraînement aussi à la maison, mais je suis pas forcément un mec qui a besoin d'aller boire des cafés avec d'autres cyclistes pour parler vélo. Voilà, moi quand j'ai un jour de repos, je kiffe pas penser vélo et voilà, de profiter d'autres choses. Et c'est, je pense, c'est ce détachement là aussi qui te permet d'avoir un équilibre dans ta vie.
C'est nécessaire pour toi?
Pour moi, c'est nécessaire, ouais. C'est quelque chose que je bosse beaucoup, aussi avec ma prépa mentale, de trouver cet équilibre, parce qu'on a tellement de courses, et finalement, le métier, il est tellement exigeant que si tu fais pas un peu attention de ton équilibre, tu peux vite tomber dans quelque chose où tu veux pas tomber dedans.
Ouais, c'est clair, c'est clair. On se disait tout à l'heure en préparant l'interview que t'étais le seul cycliste pro sur Annecy, et que du coup effectivement là tu me dis que tu te détaches. Comment tu t'entraînes quand t'es seul du coup? Est-ce que t'as un programme qui est fait par ton entraîneur et tu sais du coup à quelle allure tu dois rouler, combien de bornes, avec quelle intensité?
Ouais, nous c'est tout est programmé.
Okay.
Tous les débuts de semaine, on reçoit notre plan d'entraînement.
Okay.
Où voilà, c'est marqué lundi t'as repos, mardi tu fais 3 heures avec ces exos là. Après on a un capteur de puissance sur le vélo. Après t'as le fichier, tu le télécharges sur une plateforme de l'équipe pour que l'entraîneur il peut analyser. Okay. Du coup voilà, c'est, tu vois pas comme ça, tu te dis oh, aujourd'hui je vais faire un tour du lac parce que ça me fait envie. Non, t'as ton entraînement qui est un peu imposé.
Ouais.
Et voilà, tu pars au boulot.
Et du coup, ouais, tu sais exactement quelle puissance tu dois mettre, combien de kilomètres tu dois faire, le dénivelé que tu dois faire.
Ce qu'ils imposent, c'est le temps. Par exemple, t'as 4 heures à faire. Et après, voilà, c'est peut-être une séance thématique seuil. Où là, il te dit, bah, tu fais 3 fois cette série-là. Oui, il indique les watts à 1 mètre. Et voilà, après tu choisis un call, il y en a beaucoup ici, et tu vas faire tes séries.
Ok, d'accord, ok. Ouais, finalement, c'est très proche de la course à pied, comme quand tu peux faire ton fartlek, ton frac,
ouais,
avec tes séries.
Je pense que c'est assez maîtrisé, d'ailleurs.
Ok. Est-ce que ça reste les mêmes fondamentaux qu'en course à pied, ou quand tu fais du long, la recommandation, c'est quand même de faire beaucoup de travaux, on va dire, sur ton allure un peu standard, tu vois. Vous, c'est pareil, ou il y a beaucoup de sorties avec des thématiques?
Ça dépend de la saison. En hiver, on fait beaucoup d'endurance, où là, c'est vraiment endurance de base, tu roules assez tranquille.
Ok.
Et plus la saison, elle approche, plus t'as des thématiques. Ça peut être du seuil, de la PMA, des hautes intensités, du sprint, du lactique. Voilà, tu travailles un peu tous les zones.
Ok. Ouais, ok. De la même façon qu'un coureur, quoi.
Je pense, ouais.
Mais vous avez votre VO2 qui peut monter, qui peut être limitante sur un vélo?
Limitante, ouais, je pense.
Parce que moi, j'ai toujours les jambes qui me sèchent avant le cœur sur un vélo. Mais peut-être parce que je roule pas assez bien.
Je pense, nous, dans le vélo, on a... Déjà, bah, nous, faut qu'on travaille l'endurance. Les courses, elles durent 5 heures, parfois 6 heures.
Ouais, bien sûr.
Du coup, il y a beaucoup d'entraînement, d'endurance de base à faire. Et après, c'est vraiment la tolérance, quoi. Ouais. De mettre beaucoup de watts pendant beaucoup de temps. Et ce qui est assez difficile, c'est que c'est pas juste ça. Après, en fin de course, t'as les attaques où là, faut être bon sur une thématique lactique. Du coup, c'est vraiment, t'as vraiment dans le vélo, c'est assez spécial. T'as besoin de tous les zones, quoi. C'est pas juste où un marathon, tu te mets à ton allure, tu cours. nous, voilà, faut être endurant et après, voilà, vraiment bosser tous les zones.
Ok, ok. C'est toi, c'est quoi la zone dans laquelle t'es la mieux? T'es le mieux?
Je pense lactique. C'est ce qui fait le plus de mal aussi.
Ok. Donc, t'es contreur, quoi. T'es là pour faire la dernière attaque de fin, quoi.
C'est ça.
Ok. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Tu passes au final combien de temps chez toi dans l'année?
Pas beaucoup de temps. On a environ une 60 jours de course par an. Et après, il y a tous les stages qui se rajoutent avec souvent deux stages altitude par an. D'autres stages aussi. Du coup, voilà, je pense que je suis parti plus de jours que je suis à la maison.
Ouais.
Largement.
Et c'est pas un problème pour toi de t'entraîner tout seul?
Non, c'est quelque chose que j'aime bien. Il y en a plusieurs qui aiment bien rouler en groupe. Moi, je sais pas pourquoi, j'aime vraiment la sensation quand t'es à l'entraînement. Déjà, tu fais tout à 100% parce que t'es pas influencé par quelqu'un d'autre, quoi. Tu te concentres vraiment juste sur ton travail que t'as à faire. Et c'est un peu, ouais, j'adore ça pour me libérer la tête aussi. C'est là où je fais des débriefs des derniers jours, ce qui s'est passé. J'ai réfléchi au futur, ce qui a amélioré. Ouais, je pense que beaucoup de temps seul pour réfléchir à tout ça. Et moi, j'aime bien ça.
Ouais, alors que si t'étais avec du monde, t'aurais vite la tentation de papoter.
Ouais, ouais, tu parles et tu prends pas forcément le temps de penser.
Y a d'autres cyclistes qui sont un peu comme toi?
Ouais, je pense Benoît Cosnefroy aussi, il s'entraîne beaucoup seul. Il aime bien ça aussi, ouais.
Ok. Ok. Hyper intéressant. Je t'ai demandé en off, mais je te le redemande là. Vous faites d'autres sports?
C'est vraiment compliqué parce que une fois la saison, elle est lancée, on court presque tous les week-ends. Ce qui laisse vraiment pas beaucoup de temps. Et après, on est tellement dans l'optimisation dans le vélo que tu essayes toujours de récupérer. Et tu peux pas perdre du temps en perdant d'énergie pour faire un sport qui te sert à rien finalement. Voilà. Et même en hiver, on essaye de... Il y en a qui font d'autres sports. Moi, j'aime bien ça pour me libérer la tête aussi. Mais c'est un peu la seule période où tu peux faire d'autres sports.
Ouais. Et tu vas faire quoi? Du ski de rando? Tu vas faire du ski de fond? Tu fais quoi?
Ski de fond, ski de rando, de la marche aussi.
Ouais.
J'aime vraiment bien. Bah moi en soi j'aime bien faire d'autres sports, même la course à pied, le trail. Et j'ai hâte pour la fin de ma carrière quand je peux un peu faire d'autres sports aussi.
Ouais, mais il y a beaucoup d'athlètes qui disent ça, tu vois.
Ah ouais.
Qui disent ouais, je suis dans un sport où je peux difficilement faire d'autres trucs et du coup j'aimerais bien tester pour plus tard. Tu vois, après il y a des sports qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Tu ouais. vois, forcément le vélo. Si en moyenne tous les jours tu passes quoi, 4 heures, 5 heures sur le vélo.
Ouais, c'est une moyenne de je pense 20 heures par semaine.
20 heures par semaine. Donc ça fait 3 heures par jour. Ouais, quand même, tu vois.
Bah, en soi, t'as du temps. Mais nous, ouais, on fait l'entraînement. Mais après l'entraînement, ta journée, elle est pas finie.
Ouais.
Après l'entraînement, faut que tu récupères. Et surtout quand on a des courses le week-end, déjà lundi, tu rentres. Et lundi, c'est une journée où tu fais pas grand chose parce qu'il faut vraiment récupérer pour remettre en route après.
Mmh.
Du coup, tu te dis, ah, lundi, sur le calendrier, j'ai rien. Je pourrais faire plein de trucs, mais c'est là où tu récupères pas. Du coup, lundi, c'est souvent une journée un peu de canapé, de lit, de dormir, de faire des siestes et pas faire grand chose. C'est ça aussi la partie du métier quand t'es pro, quoi. Parfois, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas trop, mais c'est autant important que finalement l'entraînement, parce que l'entraînement sans récup, tu vas nulle part.
Ouais. Ok. Du coup, c'est quoi tes routines à toi de récup?
Bah souvent, déjà je m'entraîne le matin, toujours. Comme ça, c'est fait. J'aime pas.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quand je m'entraîne l'après-midi, je pense à l'entraînement et du coup, bah... Voilà, ça me va pas. Du coup, le premier truc que je fais le matin, c'est je prends mon petit-déj, je fais une petite activation de gainage, étirement, pour m'activer avant d'aller sur le vélo. Et je fais mon entraînement, je rentre, je mange. Et après, voilà. Après, souvent, je me pose 2 heures sur le canapé où je récupère, quoi, avec peut-être une sieste ou voilà, où je fais pas grand-chose. Et après, c'est une nouvelle journée qui commence où là, bah, peut-être tu vas faire un petit tour en ville ou quelque chose. Mais jusqu'à la fin de sieste, pour moi, c'est le métier. Voilà. Ouais. Tu peux pas finir ton entraînement et direct partir en ville et faire une vie normale. Ça, tu récupères pas et ça marchera pas.
Ouais, ok. Côté nutrition, comment est-ce que tu te gères? Alors je fais un peu le disclaimer pour les auditeurs. Effectivement, il y a eu des petits reportages, des petites vidéos ou des enquêtes sur effectivement des cyclistes qui disaient que ils optimisaient énormément leur poids, ils faisaient très attention à leur balance. J'avais envie de te poser la question. Parce que, comme je te le disais, tu le sais très bien, mais t'es très grand, t'es un des cyclistes les plus grands du Tour. Et je me demandais du coup si le poids, tu le surveillais encore plus, parce que ton rapport poids-puissance est primordial. Et est-ce que tu constates aussi sérieux et rigueur autour de la nutrition?
Bah la nutrition, c'est quelque chose qui a énormément évolué ces dernières années. Je dirais les dernières 3 ans. Dans l'équipe.
Pour toi, tu veux dire, ou pour dans l'équipe?
Dans le vélo.
Dans le vélo.
Dans le vélo. Et dans d'autres sports aussi. J'aime bien échanger avec d'autres sportifs aussi, d'autres sports. Et je vois que ça évolue aussi bien. Mais dans le vélo, ça a énormément évolué. Maintenant, on a un nutritionniste, deux même. Et tu vois, par exemple, les stages altitude, on bosse avec des puces de glycémie. Pour finalement tout optimiser, quoi. Quand on est en stage, on mange pas quelque chose par hasard. Tu fais tes glucides comme t'en as besoin. Pas trop, pas. Voilà, c'est vraiment, tu essaies d'être dans la fourchette optimale tout le temps, toute la journée. Et, du coup, c'est énormément poussé, même sur le vélo, où finalement, aujourd'hui, tout est calculé. Ça veut dire que sur la potence, on a un sticker qui est fait tous les jours individuellement où c'est écrit à quel kilomètre on mange quoi. Parce que voilà, c'est par rapport à ta dépense énergétique pour pas trop manger, ça sert à rien, et pour pas être dans un déficit aussi. Du coup, aujourd'hui, on est vraiment dans un truc où t'arrives à quasi tout calculer. Et où pendant les périodes vraiment sérieuses, les périodes vraiment importantes, tu fais rien par hasard.
Mmh. Ok. Et donc toi, quand tu pars sur le Tour de France, sur ta potence, t'as un autocollant qui te dit tout ce que tu dois manger.
Ouais.
Ok. Et tu pourrais nous dire sur une grosse étape qu'est-ce
en
que
stage,
tu...
c'est pareil. Ouais. Ça varie. C'est assez complexe. Sur une étape plate, où t'as peut-être une journée assez tranquille, tu manges pas. Tu manges pas autant de glucides par heure que pendant une grosse étape de montagne, par exemple.
Bien sûr.
Et
c'est quoi que vous mangez? C'est des gels,
c'est des barres, ouais. Après, ils font aussi pour changer des petits gâteaux de riz. Parce que quand pendant 21 jours, tu manges des barres, à un moment donné, ça devient compliqué aussi.
Moi, c'est les gels.
Ouais.
C'est trop sucré, là. Je supporte plus, moi.
Ouais.
Le liquide et tout, en plus. Mais...
Et même les bidons, t'as plusieurs dosages. Parfois, on fait des bidons de 30 grammes, de 45 grammes, de 60 grammes. Et pareil, tu bois pas le même bidon, par exemple, dans un col que dans une descente. Et du coup, finalement, c'est vraiment dans l'optimisation de fou, quoi. Et avant, ça n'existait pas autant. Et après, il faut jamais oublier les bases, quoi, de manger sainement. Pour moi, c'est hyper important, et pour l'équipe aussi, de rester aussi parfois juste sur les bases, pas se faire la vie trop compliquée non plus dans les périodes où t'es pas à 100%.
Ouais, ok. Ouais, la dérive, c'est de garder cette rigueur-là à la maison et même à la maison de peser tout et d'être toujours très pointilleux. Ouais.
Et même après, tu connais tellement bien ta glycémie parce que on doit l'avoir, je sais pas, une 40-50e jour par an, la puce de glycémie. Du coup, tu sais comment elle réagit ta glycémie.
Ouais.
Du coup, quand t'es dans des périodes importantes, tu fais attention à plus ou moins tout pour pas faire des gros pics qui servent à rien. Par exemple, tu vas pas manger une glace comme ça quand t'es au repos parce que tu sais, tu fais un pic qui sert à rien. Et après, quand t'es dans des périodes un peu plus tranquilles, faut se détacher parce que là, tu te dis « Ah, j'ai mangé une glace » et tu sais que ça va te faire un pic. Mais du coup, c'est difficile. Il faut vraiment faire des périodes, moi je trouve, des périodes où tu bosses à 100%, où tu optimises tout, et d'autres périodes de l'année où limite tu t'en fous un peu et tu reviens aux bases.
Ouais.
Parce que sinon tu deviens fou. Tu peux pas non plus chaque minute dans ta vie penser
optimisation.
Ouais. Quand t'as un petit creux et tu dis merde, ma glycémie elle tombe, faut que je mange vite un truc. Alors, parfois la vie tu peux pas, quoi. Parfois tu manges un repas, t'as envie de manger un dessert. Parfois t'as un petit creux, mais je sais pas, t'es en train, t'as rien à manger. Faut pas paniquer parce que tu sais que là, ma glycémie elle chute. C'est comme ça parfois.
Ouais.
Et faut être le plus proche de la perfection, mais tu peux pas être dans la perfection tout le temps.
Ok. Est-ce que c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai écrit un post sur LinkedIn là ce week-end. Tu vois qui c'est, Brian Johnson,
non.
Le millionnaire américain qui veut essayer de rajeunir.
Ah, ça me dit quelque chose. Ouais.
Alors il commence un peu à faire un parler de lui, mais en gros, je te fais son histoire. Il s'appelle Brian Johnson, il a 47 ans et il a vendu il y a 2 ou 3 ans, il a vendu sa société à 800 millions de dollars. Donc il est devenu très 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 riche et il veut consacrer toute sa fortune pour essayer de rajeunir et pour essayer de vivre le plus longtemps possible mais en excellente santé. Donc il a fait des trucs très très bizarres, mais il a aussi lu des super enquêtes, tu vois, sur le rajeunissement. Il s'est entouré des plus grands experts du rajeunissement et tout, et il a tenté des trucs chelous. Genre il s'est fait transfuser du sang de son fils, il fait des traitements au laser pour sa peau avec de la lumière, enfin bref, il fait des trucs un peu chelous. Il mange tous les jours la même chose. Et en fait, du coup, j'écrivais un petit post sur lui et je disais, il y a très peu de gens sur Terre qui seraient capables d'avoir un peu cette rigueur de faire quelque chose d'aussi sérieux, quoi. Parce qu'il a l'air de s'y tenir depuis 2 ans. Il prend 100 pilules par jour. Tu vois, t'imagines? Ça fait beaucoup. Même moi, je prends des compléments alimentaires. 100 pilules, ça commence à faire beaucoup. Vraiment, vraiment, non. Et genre, les gens me disaient, mais... c'est ouf quoi, il doit devenir complètement malade le mec de d'optimiser tout le temps 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 tout le temps. Ouais. Effectivement quand tu regardes ses photos, il a l'air un peu perché.
Mais... Bah, c'est exactement ça ce qui est difficile dans le vélo. Parce que tu peux optimiser tout le temps et tu peux toujours optimiser quelque chose d'autre. Mais à un moment donné, bah, parfois faut accepter que c'est pas la perfection. Je sais pas, nous on prend souvent l'avion. Bah, avant l'embarquement de l'avion, bah, parfois t'es debout pendant 10 minutes. Tu sais que faut pas le faire. C'est là où tu récupères pas, ça fait mal aux jambes. Mais tu peux, parfois il y a des aléas dans la vie. Bah, tu peux pas. Parfois tu vas manger quelque part dans un resto, bah, t'as peut-être pas exactement ce qu'il te faut. Mais si là, à chaque fois, tu bouffes de l'énergie avec ces petits détails-là, je pense, bah là, tu t'en sors plus. Ouais. C'est pour ça, comme j'ai dit, faut essayer d'être très proche de la perfection, mais tu peux pas être à la perfection. Il faut accepter des petits aléas de la vie qui font que, bah, c'est pas la perfection.
Ouais, puis c'est souvent ça le pire, tu sais, c'est quand, justement, quand t'arrives pas à lâcher prise et que il y a certains aspects de ta vie où tu vas mettre la perfection et d'autres où tu peux pas, tu vois. Que tu maîtrises pas, comme tu vois, tu mentionnes le restaurant dans lequel tu vas ou la file d'attente dans laquelle t'es debout, tu vois, tu le maîtrises pas. Et si à côté de ta file d'attente tu t'es fait ta gamelle parfaite avec les bonnes calories, que la nuit t'as trop bien dormi, t'as tout optimisé, tu t'es fait une bonne séance d'étirement, t'es en forme et tout, et que là boum, on te dit ah, tu vas devoir rester debout, bah ça te rend fou en fait, parce que t'as l'impression que ça annule tous les efforts qu'il y a à côté quoi. Donc c'est hyper dur je trouve des fois de lâcher prise par rapport à ça, tu vois.
Ouais, et bah c'est exactement ça aussi que je travaille avec ma prépa mentale pour trouver un équilibre là-dedans. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, mais ça peut aussi t'écouter du jus. Même avec le sommeil, on sait tous que c'est hyper important. Si t'as envie de dormir à 22 heures et tu t'arrives pas à t'endormir, bah qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire, faut l'accepter. Il y a plein d'aléas comme ça où faut juste accepter. Et après, faut essayer d'être le plus proche. Ouais.
C'est nécessaire, selon toi, d'être perfectionniste quand on est cycliste?
Ouais. Parce que aujourd'hui tout est tellement poussé à l'optimisation que si tu te relâches et tu fais un peu au pif tout ça, ça pourra pas marcher. Parce qu'il y a tellement de mecs qui sont tellement dédiés à ce qu'ils font que t'as aucune chance si tu fais pas attention à ta récup, ta nutrition, tous ces aspects de la performance finalement. Faut toujours garder un peu la tête libre.
Ouais.
Mais faut vraiment bosser.
Ok. C'est quoi tes autres qualités, toi, de cycliste? Tu vois, tes unfair advantages, comme disent les Anglais, ou, les choses que tu sens que tu fais un peu mieux que les autres, tu vois. Sans faire de l'ego, de dire je suis le meilleur et tout, mais on peut aussi, je pense, être sûr de ses qualités, tu vois. Et moi, je peux très bien te dire, ok, sur Extraterrien, ce que je fais mieux que les autres médias, c'est que je vais à la rencontre des athlètes, j'essaie de les mettre dans des beaux décors à chaque fois, et puis j'essaie de faire des petites blagues comme ça, on se sent bien, et puis il y a pas de pression, tu vois. Donc, et ça, je sais que c'est ma marque personnelle, tu vois.
Ouais.
Puis il y a d'autres journalistes, ils vont dire oui, ils vont pas du tout être pareils, tu vois. Du coup, toi, c'est quoi tes petits edge?
Je pense c'est tout ce qui est lié à la performance, parce que finalement je pense que la performance c'est devenu une passion de moi. Avant c'était vraiment le vélo ma passion. Je pense maintenant c'est plus la performance qui est ma passion que le vélo.
Ok.
J'adore m'informer sur tout ce que tu peux optimiser. La nutrition ça m'intéresse, tout ce qui est lié à la performance ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ou peut-être avant j'ai lu des magazines de vélo. Tu vois, sur des vélos, je savais tout. Maintenant, je sais beaucoup moins, par exemple, sur le matériel, tout ça. Mais maintenant, c'est devenu ma passion, vraiment la performance.
Okay.
J'écoute pas mal de podcasts aussi d'autres sportifs. Ça m'intéresse vraiment fort comment les autres sportifs y font dans d'autres sports, quoi.
C'est vraiment... T'écoutes quoi? Peut-être par curiosité?
Ça dépend. Mathieu Blanchard, j'ai écouté pas mal ce qu'il raconte, très intéressant. Aussi les rencontres d'autres sportifs. J'ai eu la chance de rouler avec Martin Fourcade. Et j'adore ces échanges parce que parfois t'es enfermé peut-être un peu dans ton monde de cycliste, dans ton sport, et tu vois pas forcément ce qu'il fait à côté parce qu'il y a des cultures. C'était toujours fait comme ça, bah on va continuer à faire comme ça. Et moi je pense qu'il faut vraiment pas se mettre de barrières et voir ce qui se fait aussi dans d'autres sports. Et il y a toujours des trucs bons à apprendre. Et faut être ouvert d'esprit, je pense.
Ok. Je vois très bien. Donc toi, c'est ce qui te passionne le plus, quoi.
Maintenant, ouais.
Ok. Il y a des sources d'informations que t'aimes bien sur la perche, je sais pas, des documentaires, des chaînes YouTube, des livres qui t'ont permis de progresser.
J'ai lu pas mal de livres sur la prépa mentale, qui est finalement aussi un gros volet de la performance. Et après, nous, dans l'équipe, on a pour chaque domaine, on a les spécialistes. Du coup, on apprend beaucoup pas. On a les nutritionnistes, les entraîneurs, le docteur et même beaucoup les ingénieurs, beaucoup d'autres domaines où ils mettent des choses en place dans l'équipe. Où beaucoup de mecs, bah, ok, ils ont mis un protocole, on va suivre le protocole. Mais moi, je suis plutôt, ok, ils ont mis un protocole en place. Pourquoi ils ont mis le protocole en place? Qu'est-ce qui est leur idée? Et du coup, bah, j'échange beaucoup avec eux pour essayer de comprendre tout ça.
Ok. Vous avez quoi comme spécialiste accessible?
Nutritionniste avec qui on bosse beaucoup.
Ouais.
Prépa mental. On a un psychologue aussi.
Ok.
Les entraîneurs pour tout le volet de l'entraînement.
Ok.
Fred Grapp qui est head of performance pour tout ce qui est vraiment autour de la performance. Des ingénieurs pour tout ce qui est vélo, aéro. Tout ça. Du coup, chaque volet, le docteur, chaque volet a vraiment son spécialiste.
Ok. Mais écoute, si tu veux écouter d'autres podcasts avec d'autres athlètes, t'as extraterrien, mais je te recommande vraiment cette chaîne YouTube de Brian Johnson, parce que il apporte une perspective différente. Lui, son but, c'est pas forcément de performer, mais de rajeunir. Du coup, il y a des choses qui sont inspirées de la performance, mais il y a des choses qui sont aussi inspirées pour la longévité et pour durer. Et c'est quand même pas du tout la même chose. Et du coup, ça te donne une autre vision de la performance, que c'est comment performer dans le temps, quoi, comment durer. Donc, super intéressant. Je pense que ça te plairait. On a parlé très brièvement préparation mentale. Je sais que tu connais bien Marie-Laure Brunet, que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques mois de ça. Le vélo, c'est un sport où certains pourraient avoir tendance à penser que c'est très mécanique, c'est très physique, et que il n'y a pas besoin de réfléchir. Et peut-être que le mental n'est pas vraiment utile. Tu l'as abordé juste avant en disant que la prépa mentale était importante pour toi parce que ça te permettait de lâcher prise aussi sur certains événements. Mais quels sont les autres... qu'est-ce que tu travailles d'autre dans la préparation mentale?
Le plus gros volet que je travaille, c'est vraiment, comme j'ai dit, l'équilibre.
Ok.
Entre la performance et être heureux dans sa vie en global. Parce que finalement, on n'est pas que des athlètes, on est des êtres humains aussi. Et il faut pas se perdre non plus dans un truc où finalement t'es plus heureux dans la vie. Pour moi, le plus important, c'est toujours d'être heureux dans ma vie et d'être performant. Mais je pense être heureux dans la vie, c'est vraiment mon numéro un. Du coup, on travaille beaucoup là-dessus. Et
comment ça se travaille?
Bah, on fait par exemple des débriefs des semaines.
Ok.
Où on définit un peu, on met l'optimisation dans quelle échelle, quoi, par rapport à la vie. Quand tu travailles un tour et tu pars en stage altitude et tu prépares tout ça où tu vas t'isoler, ta vie sociale globale, tu la mets en pause. Tu optimises tout, tu penses qu'à ça et voilà, ta vie est en pause. Et après, du coup, c'est hyper important de retrouver la vie normale après, où tu vas au lac, où tu profites de ta vie, ou voilà, la vie normale. C'est important déjà de pas rater ces périodes-là, parce qu'après, je pense que tu peux finir vite en burn-out ou même, pourquoi pas, dépression.
Ouais. Mais tu vois, j'ai du mal à comprendre en quoi l'accompagnement d'un préparateur ou d'une préparatrice mentale, ça aide. C'est pour te rappeler que, tiens, là, t'es en période de repos, donc décompresse. Mais si c'est juste un rappel, tu peux te le noter et puis tu le sais. Tu vois, c'est juste le fait d'en parler, de libérer son esprit. J'ai du mal à comprendre quel rôle elle peut avoir.
Je pense déjà quand t'en parles, tu te rends déjà toi-même compte de ce que tu ressens, ce que tu vis. Ça c'est déjà important. Et après c'est comme j'ai dit, nous on a tellement envie de progresser, tellement envie d'être à 100% que parfois t'as vraiment besoin de cette personne qui te rappelle. Attention, là, pendant un bon moment déjà, t'es dans le rouge. Faut que tu fasses attention. Reviens un peu à l'essentiel de la vie. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de parler à quelqu'un, de se libérer.
Ouais.
Parce que si tu fais les courses et tout, bah tu fais ta course, tu rentres à la maison, mais tu fais pas vraiment un débrief, quoi. T'as souvent toutes ces pensées de la course aussi en tête. Tout ce qui est passé. Du coup, c'est juste important aussi parfois de se livrer. Ouais.
Ouais. Ok. Ouais. De partager les émotions que tu as pu avoir pendant une course pour les évacuer, quoi.
Ouais. Pour moi, c'est important. Ouais.
Ok. Donc, ok. Premier point, effectivement, du coup, se rappeler que tu dois être heureux en dehors du vélo. Sur quels autres aspects ça peut être utile, la préparation mentale?
La visualisation, où tu te prépares déjà dans la tête à ce qui t'attend. Du coup, parfois, en course, t'as l'impression que t'as déjà vu ce moment. T'es familiarisé avec ça. Ça peut être de la fatigue énorme, des douleurs, de la souffrance. Et déjà, être préparé un peu à tout ça, ça aide énormément. Après, ça peut être aussi... ce qui est très important, c'est sur le tour ou d'autres courses, de se concentrer sur soi-même. Parce qu'il y a énormément du bruit pendant les étapes, il y a tellement de choses qui se passent. T'as l'hélico qui fait du bruit toute la journée, t'as tous les spectateurs. Et parfois, tu fais trop attention à tout ça et tu perds un peu le truc pourquoi t'es en fait là.
Ouais.
Et c'est pour ça que voilà, ça, on travaille aussi de rester calme dans ces situations-là. Même dans des situations pas idéales où tu crèves et voilà, t'as un gros coup de stress, de pas lâcher trop de jus là-dessus, de rester calme et de se remettre dans la course.
Ouais, ok. Tu visualises beaucoup les moments un peu de compliqués que tu peux avoir.
Ouais.
Une fringale, enfin non, les fringales vous en avez plus puisque vous êtes trop contrôlés, mais non, mais un gros coup de pompe, une crevaison, une chute, un mec qui va te saouler à côté.
Ouais, et après, ce qui aide aussi, c'est l'expérience. C'est déjà mon troisième grand tour. Du coup, tu sais aussi déjà à quoi t'attendre. Je pense que la prépa mentale, c'est aussi très, très important quand tu fais quelque chose de nouveau. Par exemple, ton premier grand tour, parce que tu sais pas, t'as pas encore les références, tu sais pas à quoi t'attendre.
Ouais.
C'est là où de s'imaginer à quel point c'est dur, c'est important.
Ouais. Ah, ok. En parlant de ça, c'est quoi le moment où t'en as le plus bavé? Est-ce que c'est vraiment le tour? T'en as fait deux maintenant? Tu fais top 50 à chaque fois?
Je pense que c'était le tour l'année dernière où pendant une journée j'étais malade. Une journée j'étais malade, c'était extrêmement compliqué. J'ai passé toute la journée devant la voiture balai tout seul.
Dès le début?
Ouais, dès le début, j'étais premier lâché. Et je me suis dit, mais comment je vais finir ça? Je me suis dit, c'est pas... Et pendant ma tête, parfois, je me dis, mais j'arrête tout ça, ça n'a pas de sens. Et finalement, j'ai pas arrêté, je me suis battu. Et j'ai hyper bien récupéré. Et les jours d'après, ça allait beaucoup mieux à nouveau. Et faut jamais perdre espoir, même dans des situations très merdiques.
Ouais, je vois ça, ouais. C'est quoi ta source de motivation dans ce jour-là? Là, t'es sur le vélo, c'est ton premier tour. C'est quelle journée, quelle étape, tu sais?
C'était vers la fin, c'était en troisième semaine.
Donc t'as fait le plus dur, t'avais peut-être une partie des Alpes dans le dos. T'as des pensées négatives, qu'est-ce qui te fait tenir? C'est quoi la source de motivation?
Je pense que c'était Paris. Parce que c'est vraiment spécial d'arriver à Paris sur les Champs. Je pense que c'est un truc incroyable. J'ai pensé que c'est incroyable, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment incroyable. Ouais.
Okay.
T'as des émotions tellement fortes que la première arrivée du Tour, bah, ça fait peut-être 10 ans que tu rêves de faire ça. Déjà, de participer au Tour, c'est fou. De le finir, bah ouais, c'est incroyable. Et je pense que c'est les émotions les plus fortes que j'ai vécues peut-être pendant ma vie.
Ok, ouais, à ce moment-là. Il y a des doutes, enfin, c'est quoi les trucs dans la vie de cycliste qui allez, soyons un petit peu grossiers, mais qui te font un peu chier, quoi. Si tu pouvais retirer des choses de la vie de cycliste pour que ce soit plus agréable, tu retirais quoi?
Je pense qu'il est dur dans le cyclisme, c'est l'enchaînement des courses. T'en as tout le temps. Et du coup, faut accepter d'aller sur des courses où t'es pas forcément bien, où tu vas ramasser. Voilà, c'est un point de passage pour après être très bien. Mais du coup, bah, c'est pas comme dans d'autres sports où tu prépares vraiment un événement et tu t'approches des bonnes sensations, t'es de mieux en mieux et tu sais, bah là, je suis prêt.
Là, c'est encore plus frustrant parce que souvent, t'es pas prêt.
Ouais. Mais du coup, par exemple, là, bah, la semaine dernière, je suis parti à une course. Après le tour, j'ai fait les championnats du monde. Après, j'ai coupé une semaine. J'ai repris l'entraînement une semaine et je suis parti en course. Où tu sais que là, tu vas ramasser. Et les dernières 5 jours, j'ai ramassé. faut accepter ça. Ça fait bizarre quand souvent t'es bien, t'es là en finale course. Et d'un coup, tu te retrouves dans le dernier groupe et t'es vidé autant que quand t'es dans le premier groupe. C'est ce qui m'est arrivé. Et ce qui arrive 2-3 fois par année, quoi, des passages obligés. Voilà, faut l'accepter. Et quand t'es jeune, t'as plus du mal à accepter, plus t'as l'expérience, tu l'acceptes. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez dur, ouais.
Ok. Je me posais la question parce que ma mère a fait quand même beaucoup de vélo, moi aussi. Est-ce qu'il y a un moment où le mal aux fesses, il part, quoi? Moi, j'avais mal de dos aussi parce que je me tiens pas droit. Vous avez des tests posturaux, vous faites beaucoup de gainage et tout, vous avez des vélos aussi exceptionnels, donc ça aide beaucoup. Mais est-ce que ces petites contraintes là, moi je me souviens aussi le froid aux doigts durant l'hiver, ça c'était horrible, j'avais le casque qui me grattait, qui me faisait des marques là sur le front et tout, il y a des trucs que j'aimais pas, tu vois, moi je me laisserais passer de tout ça. Est-ce que tout ça avec le temps ça passe?
Ça passe, ouais. Je pense que tu te renforces mentalement aussi. Moi, je suis à Annecy, l'hiver, l'été, c'est top, mais l'hiver, tu passes parfois des journées compliquées où tu pars à l'entraînement, tu sais qu'il va faire froid, peut-être qu'il va pleuvoir. Et j'ai appris une technique pour des moments comme ça, c'est que je vais sans émotion. Je ressens pas d'émotion, en fait. Pas d'émotion positive ni négative. Je vais là-bas pour exécuter un truc et je le fais. Et j'arrive pas à chaque fois, mais quand j'arrive, c'est assez bien parce que t'arrives à passer des journées merdiques finalement assez bien.
Et comment tu fais pour te mettre dans cet état-là?
Je sais pas. Je me dis, bah, faut passer par là et j'y vais, quoi. Je me dis pas que quand il commence à pleuvoir à 5 degrés et t'as putain de froid, je me dis pas, ah, oh, putain, journée de merde, boulot de merde, météo de merde. Mais t'es là et voilà, je suis juste là et je suis dans l'exécution du truc. Et comment j'y arrive, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai bossé, mais c'est quelque chose que j'arrive. Et du coup, j'en profite.
ouais. Non, mais je vois un petit peu ce que tu veux dire, mais c'est pas facile à faire. Non. Moi, souvent, je pense à mon objectif lointain, tu vois. Quand j'ai un truc vraiment chiant, je me dis, OK, pourquoi je le fais, en fait? Ouais. La raison pour laquelle je le fais, c'est terminer le tour à Paris, tu vois, par exemple, dans ce moment-là, je me rappellerai ça, je me rappellerai ça, quoi.
Après, ça, c'est toujours des motivations. Pour moi, tu peux pas aller chercher 100% de toi-même si t'as pas d'objectif, ça commence là. Faut toujours se mettre des objectifs. Sans objectif, tu vas pas te faire mal, tu vas pas aller rouler quand il fait froid. Mmh. C'est l'objectif qui tient et qui te motive aussi. Mmh. Et du coup, nous, on a toujours des objectifs. Du coup, t'as toujours quelque chose à t'accrocher. Et finalement, tu sais aussi pourquoi tu le fais. Parce que si tu fais pas ton boulot à la maison, tu vas en course et tu ramasses là-bas.
Ouais.
Du coup, autant bien s'entraîner à la maison.
Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a quand même eu des moments où t'as eu envie d'abandonner, où tu t'es posé la question de tiens, pourquoi je fais ça quand même?
Ouais. Bah, pour être honnête, je pense qu'il y a un peu tous les sportifs de haut niveau qui pensent à un moment de, pendant les courses d'abandonner ou voilà, quoi. Mmh. Il y a toujours des moments durs.
Mais vous, c'est particulier, tu vois, vous partez, vous roulez beaucoup, des fois dans des conditions très dures, il fait très chaud, ou des fois il fait très froid, ou sous la pluie. C'est pas agréable. Excuse-moi. J'ai du respect pour beaucoup de sports, tu vois. Mais, je sais pas, si t'es, basketteur, et que tu fais, tu vois, un ou deux matchs par semaine, mais déjà t'es à l'abri, il fait chaud,
ouais.
Il y a du public, tu vois, il y a un shooting photo, il y a plein de trucs qui sont hyper agréables, tu vois, tu rentres chez toi le soir, t'es pas pendant trois semaines non-stop dans une chambre d'hôtel différente, avec des tests, avec des trucs qui vont pas aussi des fois dans une équipe au bout d'un moment soit les mecs ils te saoulent soit ou tout simplement t'es sous pression, en fait tout le monde est sous pression donc l'ambiance elle est pas bien même alors que même si tu t'entends bien tous les jours il y a quand même des sports où c'est un peu plus facile tu vois
ouais.
Vous tu vois quand on regarde là je regardais le tour cet été c'est
bah
faisait chaud cet été, non?
Même nous, parfois, bah, même moi, je me demande parfois comment c'est possible de finir un Tour de France, par exemple. C'est tellement dur, il y a tellement de souffrance. Et comme tu dis, bah, parfois, tu vois, quand le matin, tu allumes ton télé, il y a marqué canicule, allez pas dehors. Faites pas de sport. Bah, c'est là où t'as les étapes du tour, quoi. Qui démarrent à 14h quand il fait le plus chaud. Et quand tu vois les journaux qui disent qu'ils sont en train d'arroser les routes parce qu'ils sont en train de fondre parce qu'il fait trop chaud. Et toi, tu vas faire ta course, tu te dis, mais
ouais.
Faut faire abstraction de tout ça parfois, parce que sinon, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Et tu sais, quand t'as fait un grand tour, tu sais que ça tient. Tu sais que t'es capable de le faire. Ça, c'est déjà très important de le savoir, parce que tu passes par des moments en deux ou troisième semaine, tu te lèves le matin et t'as l'impression que t'as même pas la force pour descendre, pour aller prendre ton petit déj. Et finalement, bah, tu vas dans le bus, t'es somnolent, t'es fatigué, quoi. Mmh. Tu sors du bus, il fait méga chaud. Tu te dis, mais c'est impossible. Tu pars sur ton vélo et tu le fais. Mmh. Et c'est ça qui est incroyable. Et même ce qui est incroyable, c'est que même en troisième semaine, ça arrive de battre des records de puissance. Alors qu'en soi, c'est pas du tout logique parce que t'es dans un état de ouf, quoi. T'es tellement fatigué, mais une fois la course lancée, c'est aussi apprendre à gérer la fatigue, quoi. Mmh. Souvent, quand tu pars le matin, les premiers 10 kilomètres, t'as tellement mal aux jambes, c'est horrible.
Ouais.
Et plus l'étape, elle avance.
T'arrives sur ton vélo, tu boites, t'as
vraiment mal aux jambes. Et plus l'étape, elle avance, de mieux en mieux ça va, jusque parfois à la fin, tu fais des records de puissance avec des excellentes sensations. Et c'est pour ça, faut surtout pas se mettre de la barrière.
Mmh.
Faut pas se dire, ah, putain, j'ai mal aux jambes, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, c'est logique. Tu te dis, ah, on est troisième semaine du tour, là, j'ai mal aux jambes. Aujourd'hui, je suis mort. Non, c'est, t'es mort, mais ça va aller, quoi.
Okay.
C'est, faut faire vraiment cette expérience pour y croire. Et voilà, c'est assez bizarre, mais, c'est pour ça, faut apprendre avec des mauvaises sensations, jamais de se dire, bah là, j'ai passé un sale moment. Peut-être ouais. Ça va aller.
Et c'est les bons moments, ça. Les enfin où tu sais ça démarre pas bien et puis ça va mieux. Enfin, t'apprends à les aimer ces moments-là.
Bah, tu apprécies quand ça va aller mieux, ouais. Mm. Et c'est bizarre parfois. Il y a des jours où tu te lèves le matin, t'es éclaté, alors que trois jours après, tu te lèves le matin et tu te sens assez frais.
Mm.
Et du coup, voilà, il y a tellement d'eau et des bas. Il faut se détacher de tout ça. Et
Ok.
Et rester zen, quoi.
Ouais, j'imagine. Mais waouh. Mais c'est... en plus du mal de jambe, il y a d'autres trucs. Je sais pas, le matin, là, j'ai bien aimé quand tu racontais ce mat. Le matin où, ouais, t'as même pas la force d'aller au petit déjeuner, tu sors, il fait chaud. C'est... quand tu regardes tes coéquipiers, ils sont dans le même état, en plus, j'imagine. Tout le monde est dans le même lot, quoi. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, entre vous, à ce moment-là? Est-ce qu'il y a plus un bruit?
Bah, les grands tours, c'est souvent pareil. Au début, bah, tu pars à l'étape, tout le monde parle, tout le monde est content, tout le monde va super bien, quoi. En troisième semaine, souvent, tu rentres dans le bus, il n'y a plus personne qui parle. Et les mecs, ils sont avec les écouteurs, là, en train de... Il y en a qui sont en train de dormir. Et voilà, après, le briefing, il commence. Et là où tu te dis, bon, allez, maintenant, il faut que je me réveille. Tu te mets dedans, tu prends un café, tu essayes vraiment de te réveiller. Et voilà, après, tu fais des petites blagues et ça repart. Souvent, bah, avec Lars van den Berg autour, on a fait les blagues. Bah, y a un truc que tu ne veux pas entendre quand tu es fatigué, c'est qu'un mec te dit, putain, tu as l'air fatigué.
Ah ouais, coup, ça faut pas le dire.
Tous les matins avec Lars, quand j'ai vu Lars au bus, je lui dis, oh putain, t'as l'air vraiment fatigué. et tu vois, parfois pas prendre au sérieux et voilà. Tout le monde est dans le même état. Tu sais que même les autres mecs dans les autres bus, ils sont dans le même état que toi. Alors tu acceptes.
Ok. Donc il faut pas faire la mauvaise blague à Thibaut, lui dire qu'il a l'air fatigué.
Non, je pense pas. C'est vraiment le truc que tu veux pas attendre parce que bah entendre, tu sais que t'es fatigué, t'as pas envie que quelqu'un te dise que t'as l'air fatigué.
Ça marche. Bah c'était un tour un peu particulier du coup avec l'annonce de la fin de carrière de Thibaut. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Je sais pas si vous t'étais au courant toi depuis un petit moment, j'imagine.
Ouais, depuis un moment, mais. Moi, je suis vraiment très, très content d'avoir fait 2 ans avec lui, même 3 ans, parce que c'est un peu le mec que j'ai regardé à la télé quand j'étais jeune aussi. Hein. Quand j'avais 15 ans, je voulais passer pro, bah, c'était le mec qui était sur le podium du tour, quoi. Et du coup, au début, c'est vraiment bizarre quand tu rencontres un mec comme ça et t'es finalement dans le même bus que lui. T'as l'impression qu'il est tellement supérieur à toi et t'es encore toujours un peu fan de lui. Et après, ça passe. Et avec Thibaut, maintenant, je m'entends très bien, mais je suis vraiment content d'avoir partagé la fin de carrière avec lui. Vraiment.
Ouais. Ça donne une énergie supplémentaire. Il y avait une stratégie spéciale par rapport à ça.
Ouais, c'est bah le mec qui est toujours super motivé. C'est ça qui est cool aussi. Ce qui est bien aussi, c'est que
on peut lui reconnaître ça, c'est que
il va toujours à la bagarre. Et même ce qui est bien, c'est que bah il arrête sa saison. Du coup, en soi. Il n'y en a plus rien à foutre ce que les gens ils pensent de lui parce que ça va pas changer sa carrière vu qu'elle va s'arrêter. Et du coup, c'est hyper important parce que oui, intéressant aussi parce que lui, finalement, il peut dire des trucs que nous, on hésite de dire. Et du coup, bah, c'était très important d'avoir un mec comme lui autour. Parce que finalement, il peut dire ce qu'il veut, ça change pas sa vie, quoi.
T'as un exemple de ça, de trucs qu'il aurait dit ou je l'ai pas en tête là, mais. Ça peut être des conseils pour toi ou des.
C'est à quel non, mais quand le DS il met une stratégie en route, et bah parfois t'es pas forcément à 100% d'accord avec la stratégie. Mais bah en disant.
Lui il peut le dire.
Ouais. Bah lui il s'en fout, lui il le dit. même tu vois, l'erreur elle est humaine. Nous on fait des erreurs, les DS parfois ils font peut-être des erreurs. Ou toi tu hésites de dire quelque chose ou pas, ou parfois tu dis bon, je vais rien dire. Bah lui il le dit et du coup c'est ça rajoute vraiment de la valeur je trouve.
Ouais, ok. Et ok. Non mais c'est hyper intéressant en tout cas, c'était très émouvant cet été à voir et c'était cool. Enfin on sentait que en tout cas en tant que spectateur, on avait l'impression que à toute l'équipe ça donnait une énergie supplémentaire, une espèce de source de motivation. Alors forcément le podium, le maillot jaune était impossible à aller tirer, tu vois, mais et puis les victoires d'étape étaient très très difficiles aussi à aller chercher, mais qu'il y avait un espèce de panache, tu vois, à la française, tu vois, d'aller faire des coups d'éclat et de faire des belles choses, donc c'était c'était pour le spectacle, c'était cool, tu vois. C'est, et je pense que c'est important dans un vélo, comme tu l'as dit, qui se professionnalise, dans lequel tout devient hyper strict, hyper carré, calculé, qui a un peu de la grinta, un peu d'imprévu, tu vois. Le public, il aime ça aussi, quoi.
Ah, le public, il aime ça, et nous, on aime ça aussi. Comme j'ai dit, dans le vélo, je pense que t'as 90% de souffrance. Tu t'accroches pour faire ton boulot. Et du coup, ces moments-là où tu kiffes sont quand même très rares, finalement. Les leaders, ils en ont plus parce que eux, finalement, ils ont parfois vraiment la fin de course qui est émouvant, et voilà, il y a vraiment de l'énergie, quoi, pour aller chercher un résultat. Ce que nous, on a moins. Du coup, faut jamais oublier de vraiment se faire plaisir. Plaisir sur le vélo, parfois on oublie un peu ça. Et c'est assez intéressant. J'ai rencontré un mec il y a pas longtemps, Kylian Brand, qui fait du vélo aussi.
Ouais.
Mais du vélo complètement différent que nous.
Je l'ai interviewé, ouais.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Et du coup,
Et dans le coin, ouais.
J'ai eu la chance de rouler avec lui et maintenant, faire de plus en plus de trucs avec lui. Et c'est tellement cool de voir que lui aussi, il fait du vélo. En soi, il fait la même chose que nous. Il fait du vélo. Mais de voir, c'est tellement un autre point de vue, de faire du vélo. Et
lui, c'est l'autre extrême, quoi.
C'est l'autre extrême.
Il fait des films.
Mais voilà, ça reste toujours du vélo, quoi.
Ouais.
Et du coup, c'est méga, méga intéressant aussi de voir ça. Et tu te dis parfois, tu vois, maintenant, il me dit, moi, je fais toujours un peu les mêmes calls, les mêmes tours et tout. Du coup, la dernière fois, on a fait un repas ensemble. Il me dit, putain, vas-y, je te donne des parcours à faire. Du coup, il m'a donné des parcours avec des plus petites routes que, bah, tu trouves pas comme ça. Mais vu que lui, il connaît tout, bah, j'ai fait ça et voilà, je me suis dit, putain, cool. J'ai kiffé la sortie, quoi.
Ouais.
Et, du coup, c'est bien. Il m'a rafraîchi un peu mon mental, quoi.
Bah, c'est bien. En tout cas, c'est cool que vous soyez rencontrés et que vous vous apportiez, tu vois, mutuellement. C'est sûr que si tu veux les bons chemins, les bons spots et tout, je pense que lui, il doit être très, très, très calé, quoi.
Ouais, je pense qu'il connaît plus ou moins tout autour d'Annecy, ouais.
Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Je me posais aussi, tu vois, là, vu qu'on parlait un petit peu du tour, est-ce qu'il y a des jours où l'ambiance dans le peloton, elle est un peu plus friable, tu vois, un peu plus tendue, ou... Comme vous êtes un gros groupe, tu vois, il y a eu cette année, il y a eu quand même, il y a eu quoi, deux journées, deux étapes où il y a eu des grosses chutes, il me semble. Est-ce que ça se ressent, tu vois, que l'ambiance des fois elle est stressée au global?
Ouais, c'est clair, ça se ressent. L'année dernière, c'était extrême parce qu'on avait une étape à Roubaix, une étape de pavé qui était hyper importante mais qui était hyper dangereuse finalement. Ouais, c'était tout le monde savait que ça va être une journée de folie avec beaucoup de chutes et beaucoup de dangers. Et là, tu le sens. Et tout le monde t'est stressé au départ. Tout le monde t'est tendu. T'as pas envie de... Le pire, c'est que tu vas au départ et tu sais qu'il y a de fortes chances que bah tu tombes fort. Et de faire abstraction de ça. Et tu vois le danger, mais quand tu fais trop attention au danger, tu n'y vas pas à la bataille. Et tu peux pas faire ton boulot comme il le faut. Moi, c'est souvent bah comme cette étape-là, fallait que je place David Gaudu. Pour le placer, c'est tu vas là où c'est le plus dangereux dans le peloton, quoi, ou là où ça frotte le plus. Et du coup, c'est des journées où tu vas un peu au contre-truc que t'as envie, en fait. T'as pas envie de tomber, mais il faut l'accepter. Des jours comme ça, tu acceptes que la chance de chuter, elle est assez élevée, ouais.
Ouais. C'est dur, quand.
Ouais, moi je trouve que c'est quelque chose de compliqué à gérer. Il y a des moments clés dans la course où tu sais, là faut être placé, sinon ta course elle est finie. Mais le problème, c'est que les 150 mecs, ils savent qu'il faut être placé. Et t'as peut-être la place pour 20 mecs. Du coup, c'est un truc qui est impossible. Et du coup, bah, il y a forcément des chutes, là, ça frotte assez sale. Et c'est assez dur de se dire que, voilà, là j'y vais, j'accepte de tomber.
Ouais.
Mais faut le faire. Si le moment où tu le fais plus, le moment où tu te dis bon là j'y vais pas parce que c'est dangereux, je pense que c'est le moment où ta carrière elle prend un déclin, quoi.
Ouais.
Vraiment négatif.
Ouais. C'est marrant que tu parles de ça parce que justement j'en discutais avec un grand skieur qui s'appelle Antoine Deneria, tu vois qui c'est, champion olympique en descente. Ouais, on descente. Je dis, j'espère que je dis pas de bêtises. Antoine, si tu nous écoutes, ne m'en veux pas. Mais tu vois, bah lui, il a eu son titre et et juste la saison d'après, une des premières courses, il fait une grosse chute et jamais il va revenir, tu vois, parce que il était à 130 km/h sur les skis au moment où il part dans le décor, tu vois. Et depuis, il le dit, trop peur, quoi. À chaque fois qu'il commençait une course, la boule au ventre, et du coup, il n'arrivait plus à y aller, quoi. Et ouais, et du coup, au bout de deux saisons, il a mis fin à sa carrière parce que ça revenait pas. Mais je le voyais pas aussi de manière aussi franche dans le vélo, quoi, que c'était aussi important d'être.
Si, bah, il y a toujours des points stratégiques pendant les courses. Mmh. Des points où il faut vraiment être placé, surtout en Belgique où tu fais les monts, vraiment des petites routes. Et du coup, tu vas crescendo dans la prise de risque pendant la course. Mmh. Parce qu'au début, il y a des points stratégiques où si tu passes 60e ou 70e à ce point-là, bah, ta course, elle n'est pas finie. Du coup, tu prends du risque, mais mesuré. Parce que tu veux pas non plus te mettre par terre. Et en fin de course, il y a des passages où, voilà, si t'es pas dans les 20, c'est fini. Ta course, elle s'arrête là, juste sur un placement. Du coup, c'est là ta prise de risque, elle est maximale et il faut débrancher.
Parce que c'est impossible de remonter le peloton.
C'est ça. Ouais. Parfois, t'es sur une grande route, tu tournes à droite, il y a un mont pavé et en haut, voilà, t'as des petits groupes. Si en bas, t'es dernier dans le peloton, t'as aucune chance de remonter ce peloton et en haut, t'es dans le dernier groupe. Et du coup, bah, il y a des points stratégiques où faut vraiment être dans les 20 premiers. Et pour y être, bah, c'est une prise de risque énorme. Mais faut l'accepter.
Ok. Bon, écoute, hyper intéressant. J'adore voir un petit peu ces petits côtés qu'on sous-estime, tu vois, et qu'on voit pas forcément dans quand on est derrière sa télé, même quand on est passionné et qu'on a envie d'en savoir plus, on se rend pas compte à quel point ça joue des coudes et pour quelle raison vous prenez autant de risques. Je vais arriver au bout de l'interview, on a fait 1h20, c'est déjà pas mal et je sais que je mange un peu sur ta récup. Donc il faut que
ça va aller, je suis assis, ça va.
il va falloir que je te libère. Je pose trois questions pour la fin, deux qui sont un peu plus philosophiques et puis une autre tu vas voir qui est très simple. La toute première, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont dans les filières de performance, et du coup je voulais te poser la question de qu'est-ce que tu aurais fait différemment. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as mis en place peut-être un petit peu tard, que tu voulais pas trop écouter quand tu étais jeune, et en fait tu l'as mis en place un peu plus tard et ça a fonctionné pour toi?
En gros, j'ai eu beaucoup de chance comment tout s'est déroulé. Je pense que c'est de la chance, mais c'est aussi un peu parce que je le voulais comme ça. D'abord, quand j'ai commencé à Chambéry, dans le centre de formation, j'avais 18 ans. C'était la première fois que je suis parti de la maison. Je suis allé à l'étranger, vivre une vie tout seul. Tu te retrouves tout seul à 18 ans dans un truc où faut tout gérer. C'est assez compliqué, mais ça m'a beaucoup, beaucoup appris pour la suite. Niveau social surtout, et j'étais professionnel, mais j'ai encore profité de la vie, quoi. J'avais une vie normale d'étudiant, mais je me suis bien entraîné, j'ai fait attention à la récup, mais j'avais encore cette vie là du coup je suis un peu passé par toutes les phases de vie, du lycéen à l'étudiant et au sportif pro finalement. Et je pense que c'est quelque chose que aujourd'hui il faut faire attention de pas tomber trop tôt dans la profialisation. Il y a assez de temps après pour vraiment optimiser tout à 100%, parce que je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui à 30 ans se rendent compte qu'ils ont loupé une partie de leur vie, et du coup qu'ils veulent reprendre cette vie là et souvent ça finit pas très bien. Du coup moi je trouve que il y a vraiment dans la vie il y a des moments pour tout, mais il faut vraiment profiter de chaque instant et mettre les bons moyens au bon moment.
Ok. Mettre les bons moyens au bon moment.
Ouais.
Et prendre le temps.
C'est ça.
Ok, super bien. À l'inverse, si tu voulais dire un petit mot à ton toi de 50 ans, tu vois, et que tu avais envie de lui dire... si tu pouvais lui demander quelque chose, tu vois, à ton futur toi de 50 ans, qu'est-ce que... Là, tout de suite, ça te permettrait d'apprendre quelque chose sur toi que personne ne sait encore. Qu'est-ce que tu lui demanderais?
Qu'est-ce que je ferai après ma carrière?
Ok. C'est curieux, ça.
Ouais. C'est assez fou parce que, tu vois, à 20 ans, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils vont faire. Après, il faut leur étude. Ils rentrent dans un schéma de travail. Mmh. Voilà, ils sont dans le schéma. Plus ou moins, parfois, ça change de boîte, mais ça reste dans la même dynamique. Nous, on est dans un truc où, à, je sais pas, 30 ans, 35 ans, bah, tu commences un tout nouveau truc, quoi. Un truc que t'as jamais fait avant. J'ai jamais vraiment bossé. Je sais pas ce que c'est vraiment d'aller à 8 heures au boulot, de rentrer à 17 heures, de plus avoir toutes ces contraintes sportives, d'avoir une vie comme ça. Je sais pas vraiment ce que c'est. Du coup, j'aimerais bien savoir comment ça se déroule après.
Ok. Il y a des métiers. Tiens, t'aurais fait quoi? Tu sais pas si t'avais pas été cycliste. Est-ce qu'il y a des métiers comme ça où t'en as entendu parler? Tu te dis, ah, tiens, peut-être ça aurait pu être cool.
Moi, j'ai tout mis sur une carte, hein. J'étais tellement. En vrai, j'avais de la chance de vraiment savoir ce que je voulais. Mais je le savais à 100%. Et ça aurait pu pas marcher. Et là, fallait s'orienter vite. Mais j'ai eu vraiment cette chance de savoir ce que je voulais. Ça, c'est super cool d'avoir ça.
Bien sûr.
Et maintenant, je pense que j'aimerais bien rester soit dans l'aspect performance ou soit prépa mentale.
Ok.
Le bien-être de l'athlète peut-être aussi. Parce que je vois, ça se voit des athlètes à la dérive qui oublient finalement un peu qu'à côté du sport, il y a autre chose. Et comme j'ai dit, moi, numéro un, c'est d'être heureux et performant.
Ok, ça marche. La toute dernière question que je pose, c'est un passage de micro. J'aime bien aller de copain en copain, ou tu vois, sur les recommandations. Comme j'ai, tu vois, effectivement, j'ai pu le faire avec Marie-Laure et Caroline, avec toi. Et c'est de savoir quel est le prochain sportif. Ça peut être un cycliste, ça peut être une cycliste. Que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler un peu performance, découvrir un peu sa vision du sport et sa façon de faire.
Je pense à un mec Kylian Brun, parce que lui c'est pas juste l'aspect performance, mais c'est vraiment une vision globale de tout son projet qui est hyper intéressant, avec tout ce qui est com, mais en même temps il est performant sur le vélo. En même temps, il doit avoir à réfléchir à ses futurs projets. Et il voit tout d'un point de vue vraiment global. Et ça, j'adore quand il raconte qu'il va faire un chemin. Et lui, il se dit, putain, c'est ouf parce qu'aujourd'hui, c'est un chemin de rencontre. Alors, il y a des années avant, c'était un chemin de guerre. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment, j'adore les mecs qui ont une vision super ouverte de la vie et du sport. Qui sont pas juste enfermés dans leur truc, la performance, manger, hein. Et je pense qu'il y a pas mieux que lui.
Ok, ça marche. Mais écoute, comme je t'ai dit, je l'ai déjà eu, mais je t'enverrai l'épisode avec lui. Tu l'écouteras. Il était cool. Il était très très cool. Et ben écoute, merci beaucoup Kevin. Je me suis régalé. Je crois qu'il a arrêté de pleuvoir en plus dehors. On a tenu les temps. Merci infiniment. J'ai passé un super moment.
Merci à toi. Avec grand plaisir.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.